À tout à l'heure.
Soir, le 18-20, Julien Buchy.
18h30, le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta, bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro, bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et on va donc évoquer ensemble la prise de parole demain d'Emmanuel Macron en direction de la jeunesse, format inédit sur le média social brut. D'abord, je voudrais qu'on revienne ensemble sur ce qu'a dit ce matin Jean Castex. Le Premier ministre a enfoncé le clou sur les restrictions des vacanciers à propos du ski. Alors non seulement il y aura des contrôles aux frontières, mais en plus une quarantaine de 7 jours sera mise en place si vous allez skier à l'étranger. On l'écoute.
On va instaurer ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires
à la frontière.
Vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Je vais continuer à protéger mes concitoyens en les empêchant d'aller se contaminer et je rétablirai un principe d'équité vis-à-vis des gestionnaires des stations de ski françaises. Je suis aussi là pour les défendre.
Bon, ça fait beaucoup réagir cette affaire, même si ça concerne au final peu de gens, mais quand même toute une économie très importante qui représente 11 milliards d'activités sur l'ensemble de la saison. Réaction Guillaume Tabar, est-ce que c'est cohérent ou complètement absurde?
Je pense que ce qui fait réagir, c'est d'abord le côté punitif de la mesure. Je veux dire que c'est vraiment, si vous faites ça, voilà, on va vous mettre en quarantaine pendant une semaine. Il y a bien sûr la dimension sanitaire, mais je crois qu'il n'y a pas uniquement, il y a aussi ce côté... sous prétexte que les stations sont fermées, enfin les remontées sont fermées, ce qui revient un petit peu au même, eh bien on va empêcher à ce que les gens puissent skier ailleurs. C'est un peu le même débat qu'on avait eu sur les commerçants. Sous prétexte que des petits commerçants sont fermés, eh bien on va fermer dans les grandes surfaces les rayons aussi des marchandises équivalentes. Comme si il fallait être sûr que personne ne puisse faire quelque chose plutôt que quelques-uns malgré tout. Et puis la deuxième incohérence, c'est quand même par rapport à cette question des frontières. Sur des sujets autrement graves comme celui du terrorisme, on nous explique que les contrôles aux frontières n'ont pas forcément de sens, qu'on ne peut pas repérer, identifier et arrêter des gens qui s'infiltreraient de cette manière-là. Par contre, un skieur, là, par contre, on va le repérer sans hésitation.
Et donc, on va faire la chasse aux moon boots et au ski sur le toit à la frontière avec la Suisse ou en Allemagne avec l'Autriche. Est-ce que ça n'est pas contraire à l'idée de la libre circulation qui est donc redonnée aux Français à partir du 15 décembre? Olivier Duhamel.
C'est surtout grotesque. Parce que soit on l'applique vraiment, et à ce moment-là, il faut mettre des miradors, des mitraillettes, il faut exiger des gens qu'ils aient les papiers de tous les endroits où ils sont allés en Suisse, de prouver, comme on le prouve d'ailleurs, qu'ils n'ont pas été dans une station. Donc c'est à peu près inapplicable, sauf par des moyens totalement dictatoriaux qui sont inenvisageables. Donc c'est une distraction de plus, une pitrerie de plus. Alors, l'avantage, c'est que ça fait plutôt rigoler, quoi, et que ça fait du bien de rigoler en ce moment où il fait froid et où la situation est triste. Mais c'est quand même ridicule.
Alors, ça fait pas rigoler les remontées françaises, hein, parce que les élus alpins et les professionnels de la montagne ont saisi le Conseil d'État. Alors là, pas pour l'interdiction d'aller en Suisse, mais pour pouvoir, eux, ouvrir leur remontée parce qu'ils se sentent discriminés. Michel Cotta, réaction.
Ben moi, la réaction, elle est un peu comme celle d'Olivier, en moins forcé. C'est-à-dire, je trouve que c'est effectivement impossible d'imposer une quarantaine à des gens qui rentrent, que ça ne se fera pas, et qu'en plus, tout ça pour ça, il y aura 300 personnes, il y a 300 couples qui vont aller à Innsbruck faire du ski.
Il y en a un peu plus, hein, j'ai regardé les chiffres, il y en a un peu plus, mais bon.
Donc voilà, quant à la fermeture des... moi, je pense que j'ai fait beaucoup de ski dans ma vie. C'est vrai que dans les remontées mécaniques, on est complètement les uns sur les autres, y compris dans les mécanismes,
oui,
etc. On est les uns dans les autres.
Pas dans les tire-fesses, pas dans les tire-fesses.
Donc, pas dans les tire-fesses, mais dans les funiculaires.
Bon, oui. Mais comme dans le métro.
Dans le métro. Vaut mieux être pas trop
Michel,
près, on est d'accord.
Comme dans le métro, on aurait pu imaginer de mettre une obligation
métro,
de port du masque.
Pareil,
mais on pouvait imaginer d'autoriser seulement les remontées mécaniques aériennes, c'est-à-dire les remontes-pentes, les télésièges, les choses dans lesquelles les gens ne sont pas les uns sur les autres, et pas autoriser les...
Ou limiter la jauge dans les cabines.
Enfin, voilà. Une mesure qui fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Voilà.
Oui.
On aurait pu s'éviter ça.
Mais du coup, le gouvernement se retrouve piégé dans un débat qui concerne effectivement... peu de gens, et le débat public est en train de se focaliser sur cette micro-mesure avec la réintroduction d'une sorte de frontière avec la Suisse. Alors ce matin, Olivier Badaud de l'Institut Sapiens disait « La crise sanitaire a libéré la folie bureaucratique » en citant Montesquieu. « Les règles inutiles, disait-il, ont affaibli celles qui étaient nécessaires. » Est-ce que vous partagez cette analyse,
Guillaume Tabar ? Il y a un hashtag qui fleurit depuis une semaine, hein, c'est le « Absurdistan ». Et c'est vrai qu'on a le sentiment que quand on prend tous les thèmes, on est face à des décisions qui sont absurdes, qui sont un mélange de bureaucratie administrative. Alors on a beaucoup parlé de ces fameuses attestations dont on se demande aussi un peu à quoi elles servent, alors qu'en plus on les remplit soi-même et sur la base de la bonne foi de chacun, comme si il fallait absolument l'outil administratif plutôt que le pari de la confiance avec les gens. Donc ce mélange de bureaucratie et aussi de, parfois, il faut bien le dire, d'un réflexe un peu autoritaire, enfin un peu autoritariste. Je trouve dans le ton de Jean Castex, que ce soit pour parler du ski ou, on l'a vu la semaine dernière, pour parler des jauges pour l'assistance à la messe, il y a ce côté un peu, puisque vous contestez, je vous montre que c'est moi qui décide.
Non mais plus globalement, il y a quand même quelque chose autour de la discussion et de la négociation. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours hein, depuis 6 mois maintenant entre le gouvernement veut négocier avec les collectivités, avec les fédérations. Et puis là, on avait dit, c'est pour ça qu'ils sont en colère, on avait dit aux professionnels du ski, on va discuter, on va négocier, on va regarder les chiffres sanitaires et puis on prendra une décision tous ensemble à la mi-décembre. Et puis là, un mois avant, devant leur télévision, ils ont appris par le président de la République que de toute façon, le banc était fermé et il n'y aurait pas d'ouverture.
Oui, Olivier Duhamel. Sauf la discussion, ça ne veut pas dire qu'on prend leur position. Alors, comme Michel Cotin, non sans raison, m'a reproché, il est allé trop fort, je vais mettre un sérieux bémol. Premièrement, c'est très difficile de gouverner dans une situation pareille. Et deuxièmement, revenons sur la citation de Montesquieu, parce que je crois que justement, en crise pandémique, elle est fausse. Et les règles inutiles affaiblissent les règles nécessaires. En tout cas, la conviction du gouvernement qui se défend, c'est qu'il faut des règles inutiles pour que les gens comprennent la gravité de la situation et appliquent les règles nécessaires. Juste un exemple, les masques à l'extérieur. Les masques à l'extérieur, si on n'est pas dans un lieu confiné, on sait très bien que ça ne sert à rien. Mais quand vous imposez à tout le monde de prendre un masque dans la rue, quoi qu'il arrive, vous faites comprendre que la situation est grave. Donc c'est une règle inutile qui est nécessaire.
Alors on continue d'en parler à 18h37 dans quelques secondes avec les grandes voix. Et puis on fera le lien aussi avec l'interview très attendue demain d'Emmanuel Macron. Comment retisser le lien avec les Français et la jeunesse. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h39, le débat des grandes voix du mercredi qui se poursuit avec toujours Michel Cotta, Olivier Duhamel et Guillaume Tabar du Figaro. Et on continue d'évoquer cette polémique autour des stations de ski. Je voudrais simplement, avant de passer à Emmanuel Macron et sa prise de parole demain, vous donner deux éléments. Vous donnez deux éléments, pardon, je pensais que vous vouliez prendre la parole.
J'aurais volontiers réagi sur ce qu'a dit Olivier, mais...
Réagir dans un instant. Je voulais vous donner deux éléments. D'abord, Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a tapé très fort tout à l'heure, on l'écoute.
Il y a trop d'incohérences dans ce qu'est l'approche du gouvernement. Comment vous voulez qu'on comprenne qu'on peut s'entasser dans le métro, mais qu'on nous dise qu'on ne peut pas aller sur un télésiège ? Comment est-ce que vous voulez que dans la montagne, on puisse comprendre qu'on va pouvoir aller dans une salle de spectacle à Paris à Noël, mais que par contre, on peut pas aller skier? Et donc, malheureusement, ce qui semble aujourd'hui, c'est que la seule façon de se faire entendre, c'est d'aller devant le Conseil d'État pour que le juge s'exprime. On considère que cette mesure, elle n'est pas fondée en droit, que c'est une interdiction beaucoup trop large et qu'il y avait d'autres solutions possibles.
Voilà, et puis ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais Jean Castex a aussi dit ce matin qu'il pourrait rouvrir les stades à partir du 15 décembre. Donc pas les stations, les stades. Petite incohérence. Deuxième élément que je voulais vous faire écouter, c'est le directeur commercial de la plus grande station de ski des Pyrénées espagnoles. Regardez ce qu'il dit.
Pour nous, vraiment, les clients français, c'est très important. C'est très important pour notre chiffre d'affaires, pour travailler. Si la frontière s'est fermée, pour nous, c'est vraiment un coup trop fort. C'est difficile quand même.
Et donc, vous n'empêcherez pas des Français de venir skier chez vous?
Non, au contraire, ils seront plus que bienvenus. On a eu toujours une clientèle très fidèle qui vient toujours à notre station. Et on a tout prêt pour ouvrir avec toutes les conditions sanitaires, avec tous les protocoles qui sont mis. Et on pense que la réalisation des sports de neige dans la nature, c'est bon pour la santé et ce n'est pas un problème pour la Covid.
Voilà, au micro d'Henri Laguérie. Au passage, ça illustre une nouvelle fois quand même la cacophonie européenne. Qui veut répondre?
Oui, et ça montre, et je pense qu'on n'est pas loin du débat que soulevait Olivier à l'instant, en disant il faut parfois des règles inutiles pour qu'on comprenne la gravité d'un enjeu. Moi, je crois exactement l'inverse. Je pense que lorsqu'on nous bassine avec des règles inutiles, et le jour où on comprend l'inutilité de ces règles, c'est le crédit même de la parole publique qui est en cause. Voilà, le masque, il est ou nécessaire ou pas nécessaire, mais quand on nous dit au printemps il ne sert à rien et qu'après on nous dit il est obligatoire parce que c'est le meilleur moyen de se protéger, ou que on nous dit il faut fermer les commerces parce que c'est un lieu de circulation du virus, et que je crois que c'est le ministre belge de l'Intérieur hier qui a avoué en fait que ça avait été fait uniquement pour montrer aux gens la gravité de la situation, mais qu'il n'y avait pas de vrai risque sanitaire. Bah, quand on prend les gens pour des imbéciles et qu'on se rend compte qu'on a été pris pour un imbécile, franchement, ça ne donne pas envie de respecter les règles qu'on nous impose.
Moi, oui, c'est vrai. Je suis quand même d'accord avec Olivier. Parce que, regardez, tout le monde porte un masque dans la rue, et au bout du compte, personne ne croyait que les Français iraient jusqu'à tous faire ça. Eh bien, l'accumulation des règles a fait au moins que tout le monde portait son masque. Donc, ce n'est pas si mal. Et deuxièmement, sur l'Europe, moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Dès que les coiffeurs ont réouvert, Catherine et moi, d'ailleurs, nous y sommes allés, oui, les premiers. Et puis, on a vu, le lendemain, qu'ils étaient fermés en Belgique et qu'ils étaient fermés aux Pays-Bas. Donc, il y a partout de l'absurdistan, comme on dit. Et chacun a son petit domaine d'absurde.
Et le gouvernement belge a empêché les Belges d'aller se faire coiffer en France ou pas?
Non, je dis ça, voilà.
Je dis ça en plaisantant.
Peut-être, de toute façon.
Olivier Duhamel, et puis on passe à Emmanuel Macron.
Non, sur votre question, pour y répondre aussi, là encore... Si l'Europe impose les mêmes règles partout, on va dire, mais qu'est-ce que c'est le respect de la subsidiarité, le respect de la souveraineté des États? C'est pas à des technocrates de Bruxelles à décider si on va ouvrir une station de ski dans les Pyrénées ou pas, ils y connaissent rien, ça dépend des États. Et s'il y a des réponses disparates, on dit, mais l'Europe n'existe pas, l'Europe est nulle. Donc, quelle que soit la décision prise, on s'en prend à l'Europe. C'est un peu injuste.
Mais c'est pas Bruxelles qui aurait pu décider, c'est les États entre eux qui auraient pu se coordonner. C'est ça qu'on reproche au monde.
Oui, mais quand chaque État dit... Écoutez, autant je pense que sur les principes fondamentaux du droit, sur la liberté de la presse, sur l'indépendance des universités, là, il faut en effet que les États agissent ensemble, n'en déplaise à M. Orban. Mais que l'Europe ne décide pas, même entre les États, d'avoir la même règle sur les stations de ski, comme de toute façon, la règle est mauvaise, alors c'est pas la peine de s'y mettre à tous.
Alors, on passe à la prise de parole d'Emmanuel Macron pour renouer le lien avec la jeunesse. C'est nous, dit-on, l'objectif de cet entretien inédit auquel se livrera donc le président. Demain, ce sera sur le média social Brut. Le chef de l'État prévoit d'y parler. Violence policière, écologie, loi séparatisme et crise sanitaire. Et ce sera diffusé en fin de journée sur Facebook, YouTube et Twitter. Alors, que faut-il attendre? Je vous pose la question très simplement de cette prise de parole, Guillaume Tabar ou Michel Cotard.
On a envie qu'ils disent aux jeunes qui se sentent sacrifiés par la crise sanitaire, on a envie de dire pourquoi toutes les générations ont eu leur somme de dangers, de déconvenus, leur peur du chômage, etc. Et que oui, c'est difficile, ils sont dans une période difficile, mais qu'on ne fait pas ça uniquement pour sauver les vieux et pour les sacrifier eux. Ah, il faut, à mon avis, leur expliquer.
Pas toutes
pourquoi.
Les générations, ce qu'on appelle les boomers, sans faire de conflits générationnels, c'était une génération plutôt heureuse, qui n'a pas connu le chômage de masse, qui n'a pas connu les maladies, puisque le sida est arrivé plus tard dans les années 80. Voilà. C'est une parenthèse. Guillaume Tabar, qu'est-ce qu'il faut attendre de la prise de parole
Je pense que l'erreur, et j'espère que Emmanuel Macron ne tombera pas dans ce travers, de considérer une génération, j'allais dire, en bloc, comme si qu'il y avait des problèmes de la jeunesse, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes de table qui transcendent les générations, et de croire qu'il y a une génération qui s'est sacrifiée au profit d'une autre génération qui, elle, aurait été vernie. Chaque génération, dans les moments où elle traverse, a des difficultés et des satisfactions. Par moments, elle contribue au bien commun par ses cotisations, par son activité, etc. Par d'autres moments, elle est bénéficiaire. Et c'est normal, c'est avec des choses. Je pense que la grande règle de la vie en société, c'est que justement, une génération n'est pas isolée par rapport aux autres, mais il y a une forme de solidarité entre tous. Je veux dire que oui, on paye les retraites aujourd'hui de ceux qui sont à la retraite, mais les retraités d'aujourd'hui, ils ont travaillé et amplement cotisé avant et qui ont permis aux jeunes d'aujourd'hui qui payent leur retraite aussi de faire des études. Donc vous voyez, c'est faux de dire, c'est toujours les mêmes qu'on sacrifie.
Alors Olivier Duhamel, il a plein de chiffres, plein de choses à nous dire, mais il va attendre quelques secondes. 18h46, à tout de suite.